Alors, le message, ce après-midi, est divisé donc en quatre parties, pour ainsi dire. Et qui sont ceux qui vont marcher contre Israël? Pourquoi marchent-ils contre Israël? Et quel est le résultat de cette marche contre Israël? Donc, c'est divisé en trois parties, mais pour une fois, je vais prendre ça verset par verset. Le seul passage que je connais de toute la Bible qui traite ce sujet de la guerre de Gog et Magog, c'est Ézéchiel dans le chapitre 38. Alors, j'ai essayé de m'en passer pour une fois d'Emmanuel, parce qu'ils se tiennent ici à côté de moi, pendant de l'épargner, mais je n'ai pas tellement réussi. Alors, il va venir pour m'aider de temps en temps. Donc, c'est la guerre de Gog et Magog. Il y a aussi la question, quand est-ce que cette guerre aura-t-elle lieu? Cela sera expliqué dans le passage. Nous commençons donc par le premier verset, Ézéchiel 38, verset par verset. Alors, il dit ici, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » Magog, était le fils de Japhet. Japhet était le fils de Noé. Donc, c'était le petit-fils de Noé. Magog. Mais Joseph, l'historien, qui a écrit beaucoup de volumes sur des choses spirituelles, des choses religieuses, Israël et Jésus, a dit que Magog était symbolisé les pays du nord au-dessus d'Israël, à l'extrême nord. Donc, l'extrême nord d'Israël, c'est la Russie. Alors, donc, c'était Gog, c'était le chef de Magog. Donc, ça représente celui qui va diriger la Russie à la fin des temps. Regardons ce que ça dit, le deuxième verset. Vers le prince de Roche. Roche, c'est la racine du mot Russie. C'est le même, c'est la racine, c'est le même, Russie. Donc ça précise la Russie. Et puis ça dit, de Roche et de Méchec et de Tubal. Méchec c'est Moscou, et Tubal c'est Tublask dans le sud de la Russie. Donc ça fixe bien. C'est la Russie qui va à la fin des temps se présente devant Israël. Il y avait dans le 19e siècle un pasteur russe qui, en lisant ce passage, a pleuré. Il a dit, « Mon peuple va marcher contre Israël. » Il a pleuré, il a compris que c'était justement la Russie. C'est l'invasion de la Russie contre Israël à la fin des temps. Vous allez voir que ce n'est pas une guerre qui a déjà eu lieu. Et vous allez voir pourquoi je dis cela plus loin. On continue, j'irai aussi loin que possible, et puis voilà, tu vas prendre la suite. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, prince de Roche, de Méchec, de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Et je te ferai marcher, sortir, toi et toute ton armée. Ceci est très important. Dieu va forcer la Russie d'attaquer Israël. je te mettrai une boucle, je te tirerai. Pourquoi? Parce que ce pays, depuis des années, a déclaré que Dieu n'existe pas. C'était vraiment, ils ont persécuté les chrétiens à outrance. Ça a été un pays qui faisait tellement de mal au christianisme. Donc, c'est maintenant sur le jugement. Vous savez, Dieu ne juge pas tout de suite. Même dans notre vie, on fait un péché, on sait qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait quand même, et puis on attend, voilà, il va me frapper. Rien ne se passe, mais c'est formidable. Donc on continue. C'est-à-dire que Dieu ne nous frappe pas tout de suite. Il nous châtie quelquefois, beaucoup de temps après, et nous comprenons pourquoi. La Russie a fait énormément de mal à Jean. Staline a tué plus de monde qu'Hitler. C'était vraiment des massacres. Je dis, bon là, je t'attendais, c'est ton moment maintenant. Viens, tu vas venir. Viens vers Israël. Viens. Alors, ils viennent. Ils vont sortir, tout, lui et toute sa multitude. Peut-être il serait bien maintenant que tu viennes pour lire les versets suivants.
Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée.
Voilà, maintenant il faut s'arrêter là. Les chevaux, ça dérange beaucoup de gens de voir tous ces chevaux là, c'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller à la guerre maintenant avec des chevaux. Est-ce que les chevaux symbolisent quelque chose ou est-ce que ce sont vraiment des chevaux? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je sais une chose, qu'il n'y a aucun autre pays du monde qui a autant de chevaux que la Russie. Alors, le terrain qu'ils doivent parcourir, c'est un terrain très accidenté. Alors, rien ne passe plus facilement qu'un cheval dans des terrains de ce genre-là. Donc, il est fort possible qu'ils auront vraiment une armée sur des chevaux. Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose? Oui, on va voir ça par la suite. Mais tous maniant l'épée, ceci et cela, il y a un verset dans ce même passage où il dit « Ce peuple qui ont échappé à l'épée », parlant de la Russie, de peuple juif qui ont échappé au crématoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a employé le mot « épée ». C'est une façon aussi de parler de la destruction. Donc on pourrait dire, par ce passage-là, ils seront armés jusqu'aux dents. Petit bouclier, grand bouclier, ceci, cela, n'est-ce pas? Donc ils vont venir armés jusqu'aux dents. Bon.
Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pute, tous portant le bouclier et le casque.
Alors voilà, les pays là, si tu veux les nommer encore.
Perse,
ça c'est l'Iran.
Éthiopie.
Éthiopie, c'est l'Éthiopie.
Pute.
C'est la Libye.
Tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes.
Ah, Gomer, ça nous donne Togarma.
Togarma. La maison de Togarma, oui.
Togarma, c'est la Turquie, bien sûr, ça tout le monde le sait. Togarma, c'est la Turquie. Maintenant, ce n'est pas si difficile d'imaginer Turquie marcher contre Israël, parce que les choses ont changé depuis. Mais il y a 50 ans, quand j'ai entendu ce message pour la première fois donné par un pasteur en Amérique, il se demandait, mais comment la Turquie? Parce que la Turquie, c'était l'ami de l'Amérique. Et vous savez que c'était l'ami très proche de l'Amérique jusqu'il y a 2 semaines. Donc, mais les choses changent. Les pays changent. Et quand Dieu dit la Turquie va marcher, ça veut dire que la Turquie sera parmi les nations qui vont marcher contre Israël. Mais ce qui trouble actuellement, ce n'est pas la Turquie, c'est Gomer. Gomer, c'est le peuple germanique, l'Allemagne. Alors pour le moment, l'Allemagne est avec nous, quoi. L'Allemagne, Sarkozy va visiter l'Allemagne tout le temps, n'est-ce pas? Ils sont, la France et l'Allemagne sont liés comme ça. Alors, il est difficile de voir Gomer là-dedans. Mais Gomer, maintenant, peut changer. Il ne faut pas oublier que Gomer, autrefois, était divisé. l'Est et l'Ouest. Il se peut que d'ici quelque temps, ils vont se diviser de nouveau. Et que le côté l'Est va pencher vers la Russie et le côté l'Ouest vers l'Amérique. On verra. Dieu dit Gomer, donc il y aura le peuple germanique mêlé là-dedans aussi. Mais ce qui est à noter, à maintenant attention, ce qui est à noter là, c'est qu'il n'y a pas un autre pays de l'Ouest. La France n'est pas mentionnée, l'Espagne, l'Italie. Non, l'Ouest n'est pas mentionné. Alors, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que ce n'est pas la guerre d'Armageddon. Car beaucoup de gens pensent que la guerre Gog et Magog, c'est la même guerre que Armageddon. Mais il y a énormément de différences. Les gens qui marchent ne sont pas les mêmes, la fin n'est pas la même, rien ne cadre. Par exemple, dans la guerre d'Armageddon, à la fin, on voit Jésus-Christ qui descend. Ici, on ne voit pas Jésus-Christ qui descend. Vous allez voir par la fin. C'est une guerre totalement différente que la guerre d'Armageddon. Mais il y a autre chose à noter. Vous avez remarqué, la Syrie n'est pas mentionnée, la Jordanie n'est pas mentionnée, l'Égypte n'est pas mentionnée. Mais comment se fait-il que ces pays qui sont juste autour d'Israël ne sont-ils pas mentionnés? Parce qu'ils ont été détruits dans la guerre que nous avons vu la semaine dernière, la guerre israélo-arabe. Donc, aucun de ces pays qui étaient dans cette guerre-là sont dans la guerre de Gog et Magog. Ce qui place cette guerre, donc, après la guerre israélo-arabe et avant la guerre d'Armageddon. C'est carrément au milieu des deux. J'espère que c'est clair tout ça. À la fin, vous pouvez me poser des questions.
Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef.
Donc la Russie sera à la tête.
Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes.
Oh voilà, ça c'est clair, c'est à la fin des temps, dans un pays qui était longtemps désert. L'explication est là. On voit bien que cette guerre est à la fin des temps. Et ça sera après la guerre israélo-arabe, parce que les pays ne sont pas les mêmes.
Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirées du milieu des peuples.
Voilà, c'est ça. Le peuple était retiré pendant longtemps. Le pays était désert pendant longtemps. Donc ça fixe le moment de cette guerre à la fin des temps, maintenant.
Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi.
Donc, probablement, donc, la Libye, l'Éthiopie, va attaquer provenant de l'Ouest, tandis que les autres vont descendre du Nord. Donc, ils vont coincer Israël, comme dans la guerre israélo-arabe, ils vont essayer d'encercler le pays pour l'écraser.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte.
Dans les villes sans murailles, vous avez vu ça? Vous savez que depuis des années maintenant, on ne construit plus des murailles autour des villes. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça ne sert à rien. Donc ça fixe de nouveau la guerre à la fin des temps. Et ils viennent, et continuent là, il y avait quelque chose d'autre que j'ai voulu dire là.
Et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte, j'irai faire du butin et me livrer au pillage.
Voilà, maintenant, pourquoi la raison pour laquelle ils font cette guerre? Ils font cette guerre pour le butin. La guerre israélo-arabe, c'est pour détruire le pays. C'est pour anéantir Israël de la carte. Mais cette fois-ci, non. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour le butin. L'avarice, l'argent, tout ce qui... Vous rendez compte, Israël occupera le Proche-Orient depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Tout l'Irak, toute la Jordanie, toute la Syrie, le pétrole, tous les puits de pétrole, tout cela sera Israël. Israël sera riche à ce moment-là. Alors ils vont dire, mais voilà, on ne va pas laisser tout ça à ce peuple-là. En avant nous autres, nous allons prendre le pays, le butin est à nous.
J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées.
Des ruines maintenant habitées, à la fin des temps.
Sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays.
Donc ça montre que les lieux élevés, ça veut dire qu'ils avaient les meilleures places de toute la région, est à eux.
Séba et Dedan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or?
Alors voilà. Donc il y a des pays qui viennent à la défense d'Israël. C'est ce qui le sépare totalement de la guerre de Armageddon, parce que personne ne viendra prendre la défense d'Israël à la fin. Au contraire, tout le monde sera contre. Alors ici, il y a des pays qui parlent pour la défense d'Israël. Séba et Dedan, ce sont des villes, toujours dans la Bible, qui parlent des nations les plus loin que possible, au l'ouest, le plus loin possible à l'ouest. Alors, il dit, et tous ces lionceaux, hein? Vous savez que le lion, bien sûr, c'est le symbole de l'Angleterre. Quand on dit le lion, tout le monde sait que c'est l'Angleterre. Lionceaux sont des petits. Quels sont les petits de l'Angleterre? Les États-Unis et d'autres. Donc, l'Ouest, surtout mené par l'Angleterre et l'Amérique, et probablement la France, vont dire, mais écoute, hein, qu'est-ce que tu fais là pour descendre contre ce peuple sans défense, sans rien là? Vous tous, qu'est-ce que vous faites là? Alors, mais remarquez, ils parlent, mais ils font rien. Ils ne viennent pas pour défendre Israël. Ils disent, voilà, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne faites pas bien ça. Oui, mais ça, c'est facile de parler, vous savez. C'est pas difficile de parler. Et aujourd'hui, on est dans la vie des paroles. Les gens, n'est-ce pas, prononcent des paroles, on va faire ceci, on va faire cela. Mais on attend qu'ils fassent quelque chose. Et ici, l'Amérique, l'Angleterre, la France vont venir à la défense d'Israël par les paroles seulement. Alors, continuons.
C'est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion.
Voilà, ça vient du nord, là, je vous ai dit, la Russie, là.
Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai pas marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog.
Voilà. Donc encore une fois, c'est Dieu qui est sur son trône, qui gouverne tout. Il dit, voilà, tu vas descendre et tu vas être un spectacle pour le monde entier qui vont voir ma puissance se manifester. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer quand toutes ces armées descendent contre Israël.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines.
Alors là, Dieu va se fâcher. Cette fois-ci, Dieu va se fâcher et on va voir ce qu'il va faire. Comme je vous ai dit, Dieu ne punit pas nos péchés instantanément. Mais un jour, on va comprendre qu'on n'aurait dû pas le faire parce que ça revient. Ça revient. Beaucoup plus tard, mais ça revient. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer sur Israël à ce moment.
Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère.
Ah, ça, c'est déjà arrivé dans l'Ancien Testament. Quand Gédéon a attaqué, là, ils ont sonné la trompette, mais ils sont restés sur place. Ils avaient leur torche, ils ont sonné la trompette, et les Midianites ont tiré l'épée, ils ont tué les uns les autres. Et ça va se faire pareil. Il va y avoir un tel déploiement de force de Dieu, ou par un tremblement de terre, ou par autre chose, mais le bruit est tout, à tel point que les gens seront désemparés, ils tireront leurs épées, et ils tireront les uns les autres.
J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle.
Dieu va faire pleuvoir sur eux la grêle à tel point que ça sera comme des balles sortant d'une fusil, n'est-ce pas, qui vont les tuer les uns après les autres par des milliers et des milliers. Rendez compte, il y aura des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont descendre là.
Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel.
Donc à la fin de cela, tout le monde saura que l'Israël a un Dieu. Israël aussi va se rendre compte que Dieu les a protégés. Dans la guerre israélo-arabe, c'est les chefs de Juda qui auront la gloire. C'est les Israéliens eux-mêmes qui auront toute la gloire. Mais ici, ils n'ont aucune gloire, c'est Dieu qui aura la gloire. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas Israël qui va se défendre, c'est Dieu qui va les défendre. C'est Dieu qui aura toute la gloire. Et dans la guerre d'Armageddon, c'est Jésus-Christ qui aura toute la gloire quand il va venir défendre. Vous voyez les trois guerres maintenant, israélo-arabe, Gog et Magog et Armageddon. Ces guerres qui sont juste devant nous, les unes après les autres, à peine que l'une s'arrête que l'autre commence. Nous sommes à la fin, dans ces temps bibliques, exactement comme nous venons de lire.
C'est 39.
C'est fini?
Le chapitre 38 est fini, oui.
Ah, d'accord. Alors, le chapitre 39, là, on enterre les morts. Ça, c'est une autre raison pour laquelle on sait que ce n'est pas Armageddon, parce qu'on ne va pas prendre le temps d'enterrer les morts et tout cela. Tandis que là, ça dit qu'ils enterrent les morts et même les nations, différents gens, les gens qui aiment faire du bien, vont venir en Israël pour aider les Israéliens de trouver les cadavres. Et chaque fois qu'ils en trouvent un, ils vont mettre un petit drapeau pour dire, voilà, il y a un cadavre. Et puis ceux qui les enterrent vont venir les enterrer. Et ça va durer 7 mois. Ils vont enterrer les morts pendant 7 mois. Ça va être un massacre terrible. Dieu se souvient. Je ne sais pas comment aller plus loin, mais sauf de dire que Dieu a un plan et son plan se réalise. Quand Dieu dit des choses, c'est qu'il les accomplit. Ça nous aide dans nos prières. Parce que quand Dieu nous promet quelque chose, il tient parole. S'il dit « tu l'auras », c'est que tu l'auras. C'est que nous pouvons prier avec certitude, avec confiance, sachant que si Dieu nous écoute, il nous donne ce que nous avons demandé. Peu importe ce que c'est. Dieu est tout-puissant. Nous servons le Dieu tout-puissant. Et quand on lit ces passages-là, et quand on pense que, mais alors il a dit ça il y a des milliers d'années, et pourtant on est là. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais de vivre dans les temps bibliques, à la fin des temps, de voir ces choses que les hommes ont vues il y a déjà 2 ou 3 000 ans, et de les voir se réaliser maintenant dans nos jours, ça donne la chair de poule. Nous y sommes. Nous sommes à la fin. Et quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous sommes en train de faire valoir nos jours? Est-ce que nous témoignons? Est-ce que nous demandons aux gens s'ils sont sauvés ou non? Est-ce que nous avons une parole qui est claire, qui est nette et qui explique aux gens comment être sauvés? Nous vivons les temps que beaucoup de gens auraient voulu vivre, de voir la fin, de voir l'enlèvement, de voir Christ face à face bientôt. Quelle joie de vivre maintenant. Mais quelle responsabilité. Maintenant, vous êtes avertis. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, bon, je ne savais rien de tout ça. Vous en savez tout et vous savez ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Alors maintenant, je termine ma partie de la réunion et on va arrêter le...